RCF.
Et à 18h10 sur RCF, nous retrouvons comme tous les soirs de la semaine le 18-19 en région Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous. On était indécis avec Jean-Pierre. On s'est dit qui lance. Est-ce que c'est Jean-Pierre? Est-ce que c'est moi?
Il n'y a pas de problème. Nous faisons un tandem et on se demande simplement qui est sur la selle avant. Et moi, je suis sur l'arrière pour l'instant. Mais comme je suis un peu lourd, je vous préfère, Alexis, que vous lanciez.
Les planches sont solides, Jean-Pierre. Ne vous inquiétez pas. Le magazine régional, c'est parti. 18h11 sur RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardennes. Vous l'avez compris, Jean-Pierre est avec nous, évidemment, en chef d'orchestre, en maestro de cette soirée où nous retrouverons Robert Reverger, le mot de Robert Reverger. Bonsoir Robert.
Bonsoir, c'est formidable.
Formidable, ça c'est une très bonne nouvelle, on a hâte d'en savoir plus.
D'ailleurs c'est un mot personnellement que j'ai tendance à utiliser relativement souvent.
C'est vrai que vous dites souvent que c'est formidable Jean-Pierre, et tant mieux parce que si vous étiez moins content, peut-être que vous l'emploierez moins.
Ce qui est formidable aussi c'est la venue, tous les mercredis, de Fernand Tavares qui est avec nous. Fernand, bonsoir.
Bonsoir.
On va être question bien entendu de l'actualité parlementaire, juste d'un mot, cet après-midi... Au Sénat, aux questions d'actualité, on a bien évidemment parlé d'Israël.
Au Sénat cet après-midi, hier à l'Assemblée nationale, les trois quarts des questions ont été consacrées à la situation israélienne.
Ça, avec c'est fait. Avec beaucoup plus de calme au Sénat.
Avec beaucoup plus de calme au Sénat, mais en première ligne, elle a tenu à répondre à chaque sénateur, la première ministre, et qui a répété à chaque fois, qui a commencé son introduction en disant « Israël a le droit de se défendre ». C'est drôle, ça a été ça, à chaque fois son leitmotiv. Donc ça, c'est une chose. On reviendra également sur deux ou trois observations, parce que au Sénat cet après-midi, dans les tribunes du public, qui était là? L'ambassadeur d'Israël en France.
Et il a été l'un des invités de Public Sénat cet après-midi.
Tout à fait, avec une question quand même très sensible sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, et en particulier les coupures d'électricité à Gaza, le manque d'eau et tout. Et il a eu une phrase dont je vous dirai quelque chose tout à l'heure.
Merci Fernand. Ça, au moins, vous nous mettez en appétit. Hein.
Effectivement. Au programme de ce magazine régional, on aura également un maire qui nous parle, le maire d'Aubencourt-Vauzelles dans les Ardennes, Benoît Carrier, qui sera avec vous aux alentours de 18h20, Jean-Pierre. Et puis, en fin d'émission, vous le savez, en ce moment, c'est le Vitef qui se tient du côté d'Épernay. Aujourd'hui, nos amis de RCF Cœur de Champagne nous ont laissé la main et c'est Sébastien Rigobert que l'on rencontrera en fin d'émission. Il a été lauréat du prix à l'innovation dans la catégorie RSE hier sur le salon Vitef. Vous en aviez entendu un extrait lors du journal régional. Et puis, pour passer cette soirée tous ensemble, il y a notre stagiaire à la rédaction, Mélissa Tavares, qui nous fait des beaux supports de communication. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner, de vivre ce direct avec nous. Jean-Pierre, je vous passe la main.
Eh bien oui, avec bien entendu, comme tous les mercredis, Robert Reverger. Robert, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre.
Alors, c'est vrai que votre chronique depuis cette année, c'est en un mot. Alors, je vais recommencer pour des questions techniques. Robert Reverger, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Alors, c'est vrai que... Quel est le mot que vous avez choisi aujourd'hui?
Eh bien, il s'agit d'un mot, d'un adjectif plus précisément que nous employons tous les jours. Peut-être vous aussi, comme la plupart des mots dont nous écrirons l'histoire, il s'agit du mot formidable.
Le mot formidable. Un mot d'ailleurs, Robert, qui a de nombreux synonymes.
Oui, on en compte environ une soixantaine avec bien sûr des nuances, comme pour tous les synonymes.
Alors par exemple,
ce que l'on trouve aujourd'hui formidable, ce peut être plus précisément admirable, étonnant, magnifique, surprenant, fabuleux, phénoménal, enfin je ne peux pas les citer tous évidemment. Et aujourd'hui, les jeunes disent plutôt c'est super, c'est terrible ou même c'est mortel.
Ce mot formidable a toutefois un sens plutôt positif, hein, on peut le dire.
Généralement oui, nous trouvons couramment formidable ce qui provoque en nous du plaisir, aussi bien d'ailleurs physiquement qu'intellectuellement ou moralement, mais formidable a quelques synonymes, disons négatifs, comme épouvantable, effrayant, monstrueux, mais aussi, on peut dire, un sens neutre, comme très étonnant ou très surprenant. Mais quel que soit le synonyme, il marque toujours l'intensité d'une forte impression, soit de crainte, de peur, ou à l'inverse, d'admiration ou de plaisir.
Alors au fait, ça c'est intéressant. Quelle est l'étymologie de formidable?
Eh bien, formidable vient du latin formidabilis et du verbe formidare qui signifie effrayant, redoutable, qui fait peur. Alors, à l'origine, il qualifiait un épouvantail Mais le sens des mots évoluant dans toutes les langues, bien sûr, on est passé ensuite à l'idée de terreur, autrement dit d'un objet destiné à faire peur aux oiseaux, pas bien méchant cet objet, à celui d'une vraie peur panique.
Sait-on quand ce mot formidable est apparu dans la langue française?
Oui, il est apparu au XIVe siècle.
Alors quel sens avait-il alors à ce moment-là?
Alors, il avait alors le sens latin de terrifiant. Sens d'ailleurs qu'il conservera jusqu'au XIXe siècle. Par exemple, Racine dans Phèdre, à propos du temple de Trézène, fait dire à Hippolyte, qui parlait à sa maîtresse Aricie, je le cite, « Aux portes de Trézène et parmi ses tombeaux, des princes de ma race antique sépulture, est un temple sacré, formidable au parjure. »
Hippolyte rappelle ainsi à Aricie un certain nombre de renseignements, de données.
Oui, il rappelle que ce temple est formidable parce que tout homme qui s'est parjuré et qui pénètre dans le temple meurt sur le champ d'apoplexie.
Alors, on était à cette époque-là au XVIIe siècle. Alors, est-ce que vous avez, Robert Reverger, un autre exemple plus près de nous?
Oui, par exemple, on peut citer au XIXe siècle le célèbre historien Jules Michelet, qui parle d'un lieu sinistre et formidable.
Alors de quel lieu s'agissait-il, lieu sinistre et formidable?
Eh bien, il s'agit du port militaire de Brest. Cet exemple montre bien combien le sens du mot formidable a évolué. Si aujourd'hui vous disiez Brest est formidable, vous voudriez dire...
Je veux dire que j'y suis beaucoup plus, que je trouve Brest formidable, que j'adore cette ville.
Oui, ou malgré ce que dit Jacques Prévert d'ailleurs, il ne pleut pas sans cesse.
Que s'est-il donc passé pour qu'un endroit formidable soit devenu charmant?
Eh bien, au XIXe siècle, on dit, au sens premier du mot, une armée formidable, un coup formidable. Or, pour inspirer à l'ennemi une peur la plus intense possible, il faut que l'armée ou le coup soient les plus puissants possibles. Alors l'idée de puissance se substitue alors à celle d'effroi, puis de l'intensité de la peur, on est conduit à l'idée de taille surprenante, étonnante, renversante et enfin... au sens actuel, bien sûr, le plus fréquent.
D'épatant, d'étonnant, c'est
oui,
ce que vous voulez dire.
Oui, bien sûr, sans perdre de vue qu'au sens premier, si vous avez été épaté, c'est qu'on vous a aplati le nez. Vous ne pouvez pas trouver épatante une jeune fille, on est retroussé.
Et si je suis étonné?
Eh bien, si vous êtes étonné, c'est encore pire. Toujours au sens premier, c'est que vous avez été frappé par la foudre, vous avez été étonné, tonnerre.
Comme quoi l'origine et l'évolution des mots, et c'est bien que nous en parlions avec vous aujourd'hui, peuvent être instructives et amusantes. Pour terminer, auriez-vous un exemple plus récent de l'emploi du mot formidable?
Oui, rappelez-vous, vous n'avez certainement pas oublié, en 2005, M. Raffarin démissionne de son poste de Premier ministre sous la présidence de M. Chirac.
Et d'ailleurs, il est remplacé par M. De Villepin.
En effet, M. De Villepin et Sarkozy...
Ce dernier alors, pour ceux qui l'auraient oublié, était ministre de l'Intérieur.
Exact. Messieurs De Villepin et Sarkozy donc disent alors qu'ils ont trouvé M. Raffarin formidable pendant son mandat à Matignon.
Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire?
Eh bien alors, à l'évidence, dans la bouche de ces deux hauts personnages de la République, ce mot à cette époque ne pouvait être qu'un compliment, bien sûr, qu'un signe d'admiration.
Ah oui, je vois, on peut lire aussi au second degré avec vous.
Ah, je
Robert.
Ne sais pas.
Oui, ça,
je ne sais
au
pas.
Premier degré. Alors, en conclusion, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire, Robert?
En conclusion, je me contenterai de citer Teilhard de Chardin, qui résume bien le double sens de ce mot lorsqu'il dit « L'humanité est formidable, elle est capable du pire ». Comme du meilleur.
Merci Robert Reverger qui est avec nous toutes les semaines, le mercredi avec des rediffusions en semaine et nous en sommes inquiétés. C'est plutôt le jeudi aux alentours de 11h50 en fin de matinée et le dimanche aux alentours de 12h50 ou de 11h50 le dimanche. On aura l'occasion d'y revenir. La semaine prochaine, c'est quoi?
Eh bien, la semaine prochaine, nous parlerons d'un mot très à la mode. Du mot diplomatie.
Merci Robert Reverger. Bonne semaine, à la semaine prochaine.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Le 18-19 sur RCF.
18h20 sur RCF, Jean-Pierre Benoît prend une petite respiration et nous on continue ce magazine régional en le sollicitant de nouveau. Jean-Pierre, je vous vois respirer, souffler, vous respirez bien fort parce que c'est vous qui allez être sollicité effectivement avec votre maire, un maire qui nous parle, qui vous parle ce soir. Il s'agit de Benoît Carrier, maire d'Aubencourt-Vauzelles dans les Ardennes.
Et Benoît Carrier, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on est très content de faire connaître dans cette émission des communes. Et là, dans les Ardennes, est-ce que vous pouvez nous présenter cette commune d'Aubon-Courvoiselle? Combien d'habitants?
Petit village de 103 âmes, situé entre Novichevrières et Sauce-Montclin.
Donc pas très loin de Rethel, pas très loin non plus de Charleville. Bon, il y a quelques kilomètres quand même, mais bon.
Oui, on n'est pas loin. On est placé juste à côté de Wanic, à 7-8 km de Wanic, kilomètre de Rethel.
Voilà, on situe bien d'ailleurs nos amis Rémois qui prennent l'autoroute A34. Ils voient bien, ils situent bien Wanic. Alors, Benoît Carrier, vous-même, vous avez toujours souhaité être maire. Ça, vous étiez conseiller municipal. C'était dans votre... Dans votre action, vous étiez membre peut-être d'association. Comment ça s'est passé pour vous?
Bah écoutez, je me suis retrouvé un petit peu par hasard au conseil municipal, et puis suite à une démission du maire à cette époque, eh bien voilà, je me suis retrouvé maire de la petite commune. Une grande aventure.
C'est une grande aventure, justement. Tous les maires nous le disent. Mais votre commune aujourd'hui, avec ses habitants, ses 103 habitants, c'est plus des retraités, des agriculteurs. Est-ce qu'il y a quand même quelques jeunes qui viennent, j'allais dire, s'implanter dans le village?
Oui, depuis quelques années, on a des jeunes couples avec des enfants. Donc je dirais que le village rajeunit, se repeuple un petit peu. Donc c'est bien.
Ah, c'est super. Et vous, évidemment, vous connaissez tout le monde. Et justement, on se dit, le maire, il est très souvent sollicité. Et on a beaucoup de maires qui hésitent maintenant à reprendre des responsabilités parce qu'ils n'ont pas toujours le temps. Et c'est vrai que c'est plus prenant qu'on ne le pense.
Oui, je dirais, c'est toujours un temps plein. Hein. Je dirais, on n'a pas de... Il n'y a pas de temps mort. Hein. On peut être appelé à tout moment, le week-end, bon, bien sûr, la semaine. Mais bon, c'est passionnant.
Aujourd'hui, il y a des communautés de communes. Est-ce que le maire, alors ça va être un peu familier, mais est-ce qu'il est encore le patron dans sa commune? Oui, parce que c'est lui qu'on voit, c'est lui qui incarne la responsabilité. Le maire, ça compte encore dans un village. Hein.
Oui, c'est important. On peut encore prendre des décisions hein, sur certains travaux. Je dirais, on a encore un peu de la main. C'est vrai que c'est ce qui est intéressant de dire.
Alors, quel type de demandes, de requêtes, de questions sont formulées par vos habitants, par vos administrés? Il y en a qui viennent demander des renseignements personnels, parce que beaucoup cherchent s'ils ont le droit de faire ci, s'ils ont le droit de faire ça. Ils viennent vous voir, ils viennent vous trouver tout de suite.
Bah oui, c'est vrai que dès qu'il y a un petit souci ou une question, on pense toujours au maire ou un problème. Et c'est vrai qu'on essaye de répondre rapidement à toutes les questions que l'on nous pose. Alors c'est pas toujours facile, il faut être présent, il faut être attentif, à l'écoute.
Il faut que vous fassiez preuve, certainement, Benoît Carrier, de beaucoup de diplomatie, parce que vous avez forcément, avec des habitants, des tempéraments différents, des gens qui montent tout de suite au créneau, d'autres qui sont plus timides. Il faut faire preuve de beaucoup de diplomatie. Hein.
Oui, il faut être diplomate, il faut apprendre à gérer un petit peu toutes les situations. Puis je dirais qu'après la situation du Covid, on s'est aperçu quand même que les gens s'étaient un petit peu retranchés sur eux-mêmes, donc ils ont beaucoup de demandes et ils sont assez demandeurs, oui, je dirais, de beaucoup de choses. Oui.
Alors justement, vous venez d'évoquer, Benoît Carrier, le Covid. Est-ce que vous avez senti, au moment du Covid et après le Covid, un désir, vous l'avez déjà mentionné, de jeunes ou d'habitants nouveaux de venir à la campagne? Parce que bon, ils ont vu l'intérêt d'avoir un jardin, d'avoir un coin où ils peuvent sortir de leur... Ça change d'un appartement.
Oui, alors on a eu quelques jeunes, je pense, qui sont arrivés après le Covid, oui, pour la tranquillité, je dirais, l'apaisement. Et puis on a une demande aussi de certaines personnes de se retrouver. On s'aperçoit que il y a eu un vide, je pense, durant ces années Covid. Et il y a des gens qui cherchent à faire des rencontres, à se retrouver un petit peu.
Et c'est sans doute plus facile dans un village qu'en ville, quand on est dans une résidence, dans une tour, même dans une maison. À la campagne, c'est peut-être plus simple, non?
Oui, c'est plus simple. C'est vrai qu'on se connaît tous. Beaucoup sont en famille entre eux. Donc, c'est vrai que les rapports sont quand même beaucoup plus faciles. Alors, pas toujours évident non plus. Mais disons que ça aide beaucoup.
Alors dans votre commune, même si bien sûr les décisions sont parfois prises au niveau des communautés de communes, mais est-ce que vous avez des projets en cours pour les mois qui viennent, les années qui viennent, ou même un petit peu plus loin? Est-ce que vous avez des choses qui sont, j'allais dire, sur le four?
Ben, disons qu'on a fait tout ce qui est accessibilité, je dirais, au niveau de l'église, de la mairie. Et puis donc, on a fait de l'enfouissement réseau, on a fait de l'éclairage public, toujours un petit peu des projets, même si ça coûte, je pense que c'est important de le faire. On a une restauration certainement prochainement de l'église.
On aura l'occasion d'en reparler alors.
Oui, je pense.
Alors justement, on a encore 2 à 3 minutes, mais c'est l'occasion pour vous dire que si vous avez des événements du côté d'Aubencourt, Vauzelle, s'il y a une fête, une kermesse, un rassemblement, une restauration d'église, vous nous passez un petit coup de fil sur RCF et puis bien entendu, on en parlera. Je ne pense que c'est qu'un début avec tous ces maires qui sont répartis entre Reims et les Ardennes. Alors maire et vie professionnelle, maire et vie familiale, est-ce qu'un maire... il doit faire attention aussi à tout ce qui se passe, parce que s'il a plusieurs activités, c'est pas toujours facile à résoudre tout ça.
Non, c'est beaucoup d'activités. C'est vrai que je travaille dans un IME à côté de Dricourt. Et donc, ça me prend déjà un petit peu de temps. Je fais partie d'associations aussi, parce que je pense que c'est important.
Vous êtes très impliqué.
Oui, je pense que oui, il faut, parce que il y a une demande. Et il faut savoir aussi être présent. Et puis... si on veut que la jeune génération rejoigne les associations, il faut aussi montrer l'exemple.
Vous avez peut-être des situations un petit peu anecdotiques, mais ça, je vous prends de court, à nous donner une rencontre, quelqu'un qui vous demande quelque chose d'impossible. Vous savez, on dit dans certains villages qu'il y en a qui arrivaient de la ville qui ne voulaient pas que le coq chante. Enfin, il y a quand même des situations pas possibles. Vous ne pouvez pas rendre service quand même à tout le monde. Vous n'avez pas tué le coq parce que le voisin entend du bruit.
Non, tout à fait. Je pense que quand on vient à la campagne...
il faut prendre la campagne telle qu'elle est.
Voilà, avec ses avantages et ses inconvénients. Moi, je préfère voir un tracteur traverser le village qu'un gros camion.
Bien sûr.
Voilà, c'est vrai que y a le monde agricole, il faut accepter. Voilà, mais ça fait partie du jeu.
Et puis certainement, s'il y a des enfants un peu plus jeunes, ils sont très contents de se retrouver, de voir des animaux, de se trouver à la campagne, d'avoir un peu plus d'air, etc. Ça aussi, ça n'a pas de prix, monsieur le maire.
Ah ben non, tout à fait. Nous, quand on quitte le village, on a des chemins, on peut faire des promenades. Je veux dire, on a plein d'avantages, des activités sportives, on voit beaucoup les enfants dans le village. On a la chance d'avoir un petit peu d'enfants qui reviennent, je dirais, hein, puisque c'est cyclique. On a une dizaine de jeunes, et c'est bien agréable quand même de les voir en vélo ou de les voir dans le chemin, avec les parents ou avec les chiens.
Alors, pour terminer, la question, j'allais dire, qu'on pose pour cette année, en tout cas, à tous les maires que nous avons, est-ce que vous êtes un maire heureux? Moi, j'ai le sentiment que vous êtes heureux quand même de cette mission de maire.
Ah oui, je la prends très au sérieux. Oui, je suis heureux de ce que je fais. J'essaie de rendre service à mon niveau, d'être le plus disponible possible et de faire le maximum.
Eh bien, on vous remercie beaucoup, Benoît Carrier, maire de Aubencourt-Vauzelle dans les Ardennes, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On aura le plaisir de vous retrouver prochainement sur l'antenne. Au revoir.
Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Au revoir.
Merci à vous Jean-Pierre Benoît, on vous laisse encore une fois respirer un petit peu, mais on va de nouveau vous solliciter parce que vous le savez, on a un rendez-vous, c'est le journal, c'est aux alentours de 18h30, on a un petit peu de temps, j'allais dire, c'est l'occasion de faire un teasing de notre invité, de ce qu'il suit après le journal.
Absolument Alexis, juste après votre journal régional, nous aurons le plaisir d'accueillir pour une interview de plusieurs minutes, bien sûr, Fernand Tavares qui suit bien sûr la vie politique de notre pays et en particulier lorsqu'il s'agit de l'Assemblée nationale qu'il connaît par cœur ou du Sénat. Alors il est vrai que ces dernières heures, que ce soit à l'Assemblée nationale hier ou au Sénat aujourd'hui, la question d'Israël a été vraiment la question centrale, majeure de tous les débats.
Complètement. Les 3/4 des questions au gouvernement, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, ont été consacrées à cette dramatique affaire et a été en première ligne, en permanence, la Première ministre qui a martelé une seule phrase à chacune de ses interventions. Elle a commencé par ces mots. Face au terrorisme et à la barbarie, Israël a le droit de se défendre. Et c'est revenu comme une antienne, une fois, deux fois, dix fois, jusqu'à la dernière question. Ensuite, évidemment, on a entendu les uns et les autres s'exprimer avec des mots plus ou moins forts, parfois très forts, montrant du doigt des pays comme l'Iran, comme l'a fait un sénateur aujourd'hui. Demain, en tout cas, tous les groupes parlementaires, tous les présidents de groupes parlementaires, ainsi que les chambres constitutionnelles, je pense notamment au Conseil économique et social, seront à l'Élysée. Le président Macron les recevra. Et demain soir, le président de la République intervient sur cette même question à 20h au journal télévisé.
Merci Fernand. On vous retrouve dans une poignée de minutes, mais tout de suite à 18h30, c'est l'heure de retrouver le journal régional avec Alexis Claudrette.
Les titres de ce mercredi 11 octobre, à l'occasion du salon Vitef à Épernay, la Maison de l'Emploi et des Métiers d'Épernay et sa région organise et coordonne sa passerelle des métiers de l'emploi. Plus de 150 offres d'emploi sont à pourvoir. Dans le Sud-Ardenne, la saison estivale a été bonne, fort de nouvelles activités attrayantes. Le secteur attire. On fait le bilan.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
La 17e édition du Salon international des technologies des vins effervescents a ouvert ses portes hier, mardi matin, à Épernay, lieu de business avec 350 exposants. Cet événement est également un rendez-vous majeur de l'emploi et de la formation. La Maison de l'Emploi et des Métiers organise et coordonne la passerelle des métiers à l'emploi lors du VITEF. Aurélie Henry, chargée de mission à la Maison des Métiers à l'emploi d'Épernay et sa région, nous présente les nouveautés pour cette nouvelle édition.
On a créé avec la région Grand Est et aussi le soutien de l'État une nouvelle animation qui va être un escape game de la vigne à l'emploi pour vraiment valoriser tous les métiers de l'économie de la filière champagne et puis travailler sur l'attractivité des métiers. Cette nouvelle animation va être destinée à tout public qui vont partir à la conquête et à la découverte de l'effervescence des métiers. La journée du jeudi, donc 12 octobre, on va accueillir différents publics scolaires et puis aussi jeunes suivis par la mission locale pour la réalisation d'une mini-entreprise S avec Entreprendre pour apprendre. Et l'idée, c'est vraiment de développer et donner des appétences pour l'entrepreneuriat chez les publics jeunes. Donc, le matin, on va leur donner une thématique qui vont travailler sur ce projet-là et l'après-midi, vont le présenter devant un jury composé de 6 personnes, dont l'Aglo d'Épernay, le CIVC, enfin voilà, l'Éducation nationale, qui seront au rendez-vous. Et le vendredi, on va aussi avoir une nouveauté, c'est que le groupe de la salle et puis le pôle formation vont prévoir une animation numérique.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten jusqu'à vendredi soir. Des animations à destination des employeurs, des établissements scolaires et des personnes en recherche d'emploi ou en réorientation professionnelle. Déjà plus de 150 offres d'emploi sont à pourvoir sur le salon Vitef. Le plus grand parc éolien de France sera installé sur le mont des Quatre Faux près du Rethelois. La préfecture a de nouveau validé le projet. Le dossier reste cependant suspendu à la décision de la cour d'appel de Nancy, une affaire qui court depuis 15 ans. La saison touristique dans le Sud-Ardenne, justement, a été réussie. Entre Pays de l'Argonne et Pays du Rethelois, les touristes locaux ou étrangers y ont trouvé leur compte. 2023 restera comme le premier été porté par la marque Destination Sud-Ardenne. Thomas Samine, président de l'Office de tourisme.
On est vraiment content, effectivement. La structure a un an et demi aujourd'hui et donc on vient de faire le premier été vraiment avec cette identité Destination Sud-Ardenne et qui plaît, que ce soit les locaux s'identifient au nom et à ce dynamisme qui est amené par des équipes qui portent haut et fort les couleurs des Ardennes et plus particulièrement du Sud-Ardenne avec donc l'Argonne ardennaise et le Pays Rethelois au sein d'une destination commune.
Une réussite qui s'explique aussi par la diversité des actions proposées et la possibilité offerte par l'Office de tourisme Destination Sud-Ardenne de sortir hors des murs. Thomas Samine.
Depuis un an et demi, on a mis l'accent sur ces actions hors les murs. Donc on a 10% des touristes qui rentrent dans les offices de tourisme. Et nous, le but, c'est d'aller aussi à la rencontre des 90% autres. Et donc on se déplace sur les actions. Les équipes sont sur le lac de Béron tout l'été, chaque semaine, pour animer, faire des jeux et être à la rencontre des touristes pour présenter les différentes actions. On était présent également à la Canfête, la fête de l'agriculture à Le Fincourt. Tout au long de l'année, quand il y a des événements assez importants sur le Sud-Ardenne, les équipes vont à la rencontre des différents touristes et des locaux pour faire la promotion de ce qu'il y a autour du territoire et puis échanger parce que c'est dans l'échange qu'on construit.
Au moment où l'on fait ce bilan, Anne-Flore Gruson, animatrice numérique de territoire, se félicite des résultats de cette saison estivale.
On a une hausse de fréquentation, que ce soit au niveau du département, mais aussi dans nos locaux. Donc ça, c'est une satisfaction aussi, puisqu'on a à cœur à promouvoir le territoire parce qu'on l'aime et qu'on veut vraiment transmettre notre passion. Ça se retrouve également dans les différentes actions qu'on mène tout au long de l'année, qui sont donc très différentes. On a une équipe qui est très complémentaire. Et donc, on constate une hausse de fréquentation, donc c'est une satisfaction pour nous.
Cependant, tout n'est pas acquis. Nouveaux objectifs, faire prolonger la durée de séjour de chacun de ces touristes et les faire venir plus nombreux, plus facile à dire qu'à faire, mais l'Office de tourisme Sud-Ardennes ne manque pas ni de ressources ni d'arguments. Sport, les Diables de Rethel, équipe de renom dans le roller hockey mondial, sont en deuil. Leur président Eric Ulpa est décédé cette nuit d'une crise cardiaque. Celui qui avait pris la suite de Didier Lefebvre il y a 4 ans était également conseiller municipal de la ville de Rethel. Il avait aussi occupé les fonctions d'adjoint au sport, toujours de Rethel. Il y aura du basket ce soir à 20h à la Guéguette Arena de Charleville-Mézières. Les Flammes Carolo retrouvent la Coupe d'Europe avec un match face aux Grecs de Eleftheria Mouchatou. Ainsi se referme ce journal à 18h36. Le 18-19 en Champagne-Ardenne continue sur RCF. En toute fin d'émission, Sébastien Rigobert sera notre invité, mais pour l'heure, Fernand Tavares décrypte l'actualité avec Jean-Pierre Benoît.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Fernand Tavares est avec nous. On vous a entendu, Fernand, à 18h10 et à 18h30. C'est l'occasion d'approfondir un peu cette question autour de l'actualité et en particulier autour d'Israël, dont il a été beaucoup question hier à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Il en a été question à 90%. On a un peu parlé quand même tout à l'heure de la situation en Arménie, mais on y reviendra. Alors aujourd'hui, c'est Israël à 90%, avec des mots parfois très durs dans les hémicycles. Et en particulier, une affirmation qui est revenue comme une antienne au Sénat, parce que la Première ministre a répondu à toutes les questions en commençant par la même phrase. 10 fois de suite, ça fait beaucoup. Et elle a dit textuellement ceci: « Face au terrorisme et à la barbarie, Israël a le droit de se défendre ». Et puis un peu plus tard, elle a repris « Israël a le droit de se défendre, Israël a le droit de se défendre ». Voilà.
J'ai posé la question aux journalistes.
Oui.
Vous n'êtes pas sans savoir, mieux que moi d'ailleurs, beaucoup mieux que moi, Fernand, que les hommes politiques ont peur quand on coupe, qu'on fasse des coupes dans leurs déclarations. Est-ce que le fait de le répéter, non seulement c'est une insistance voulue politique, comme vous l'indiquiez, mais de le faire situer au début de chaque réponse pour être sûr que c'est bien ça le cœur de sa pensée?
C'est exactement le cœur de sa pensée, et c'est aussi pour dire, pour l'instant, on ne va peut-être pas plus loin dans l'escalade des mots, parce que la situation est compliquée et extrêmement tendue. Elle a bien expliqué que les choses ne s'amélioreront pas du jour au lendemain, que le temps d'un retour, entre guillemets, elle a même pas osé prononcer, ou très peu, à la paix, mais ça n'est pas pour les mois à venir, c'est peut-être dans les années à venir. Alors, elle en a pris conscience, les parlementaires en ont pris conscience. Une différence légère, mais une différence tout de même, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. À l'Assemblée nationale, les députés se sont levés pour applaudir, en quelque sorte, la question posée par leurs collègues et respecter une minute de silence. La France insoumise a eu des mots plus en retrait, ce qui a été reproché. En revanche, cet après-midi au Sénat, il n'y a pas eu l'ombre d'un doute, l'ombre d'une hésitation. L'ensemble de l'hémicycle s'est levé et a respecté la minute de silence et a applaudi la déclaration du président du Sénat, Gérard Larcher. Alors ce que l'on veut dire également, pour finir avec des politiques, c'est que, on reviendra sur le contenu, mais demain à midi, on a appris que le président de la République, Emmanuel Macron, allait recevoir à l'Élysée tous les responsables des groupes politiques des assemblées, Assemblée nationale et Sénat. Il y adjoindra également les deux présidents de l'Assemblée et le président du Conseil économique et social environnemental. Et puis, demain soir, toujours Emmanuel Macron, président de la République, chef de l'État, eh bien, il interviendra à la télévision à 20h, d'une façon très solennelle, pour dire aux uns et aux autres comment il ressent tout cela, et peut-être aussi évoquer l'avenir des franco-israéliens qui sont encore sur place et qui n'attendent qu'une chose pour les survivants, qu'on les prenne en main et qu'on les fasse revenir à Paris. Ça, c'est prévu. Maintenant, la situation est tellement compliquée et tellement délicate que chaque mot compte. On l'a bien senti au Sénat. Chaque mot compte. Et certains voudraient faire dire tout de suite au gouvernement, ils leur demandent, ils demandent prononcer l'expression « crime contre l'humanité ». Eh bien, on n'en est pas encore là. Pour essayer de sauvegarder tant que faire se peut un minimum de futur succès ou de future mini-ouverture à la diplomatie, c'est ce qu'a expliqué la Première ministre, c'est ce qu'ont expliqué un certain nombre de ministres dans la ministre des Affaires étrangères. Il ne faut pas brûler les étapes. Bon, l'ennemi est montré, c'est le Hamas, ça c'est sûr. En revanche, certains se sont inquiétés aussi de la population de la bande de Gaza, qui est privée d'électricité, qui est privée d'eau, qui est privée de tout. Et l'ambassadeur d'Israël en France a assisté cet après-midi aux questions au gouvernement, et il a pu répondre pendant quelques instants à nos confrères de Public Sénat, qui lui disaient alors, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité quand même de faire un couloir humanitaire? Et on a bien compris que la question n'était pas d'actualité aujourd'hui. L'ambassadeur a dit ceci. Si on a coupé l'électricité, enfin, c'est peut-être pas de mot à mot, mais enfin, c'était ça. Si on coupe l'électricité, si on refuse de fournir du carburant, c'est pour que Hamas ne fasse pas ou ne remette pas en route des usines pour fabriquer des armes. Car Israël soupçonne Hamas, depuis la bande de Gaza, d'avoir des structures, des usines qui fabriquent des armes ou qui entretiennent les armes. Donc, plus d'électricité, plus l'essence, plus de courant, plus rien, à ce moment-là, ça bloque un peu. Voilà la seule excuse ou la seule explication qui est donnée. Mais malheureusement, pour l'instant, le peuple de la bande de Gaza va encore souffrir longtemps, on le sent très bien.
Alors, sur les réseaux sociaux, et c'était souligné, je crois, oui, au Sénat, on s'inquiète de montée de formes d'antisémitisme.
Oui, et notamment en France, parce que ce matin, on parlait de quelques cas isolés. Ce soir, on parle de centaines de messages sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui sont strictement et définitivement antisémites. On n'a pas vu ça depuis très longtemps. Alors, cet après-midi encore, au Parlement, le ministre de la Justice, la Première ministre, ont réaffirmé que toutes les déclarations qui seront visées, qui seront identifiées, seront immédiatement présentées au procureur de la République et il y aura une condamnation. Donc, tout ce qui est déclaration antisémite, tout ce qui est montré du doigt, les synagogues, les écoles et autres, tout ceux qui prendront la parole en public ou par écrit, ou sur les réseaux sociaux qui pourront être identifiés, vont être poursuivis. C'est essayer de faire taire un certain nombre de déclarations qui nous rappellent, et on l'a encore dit au Sénat cet après-midi et à l'Assemblée hier, qui rappellent aux Français, qui font des comparaisons, vous l'avez sûrement entendu, entre la rave party
qui a entraîné
la mort et le mitraillage de plus de 100 ou 150 jeunes. Et on a tout de suite pensé, dans de nombreux milieux, à ce qui s'était passé au Bataclan, en France, avec des jeunes aussi qui se réjouissaient d'être là, de faire une certaine fête ensemble, vous voyez. Et on commence à s'interroger en se demandant, pourvu que, est-ce qu'il n'y a pas un risque que des choses se réveillent ainsi de la part de groupes qui sont dormants en ce moment,
qui pourraient.
Apparemment, ça n'est pas exclu. Et ce qui fait que le ministre de l'Intérieur et que les forces de l'ordre sont sur la brèche et sont sur les dents. Non seulement à Paris, évidemment, c'est première visée, mais aussi dans les régions.
Alors, il faut dire effectivement qu'on peut penser aux événements du Bataclan ou à d'autres. Il est vrai aussi que dans l'analyse de ce qui se passe, beaucoup s'accordent à reconnaître que ce n'est pas une armée contre une armée, mais que c'est plus du terrorisme tout de même. Et c'est cela qui était mis en lumière quand même à l'Assemblée nationale cet après-midi.
Oui, mais certains encore veulent mettre en exergue et veulent plutôt parler encore de déclaration de guerre, certes un mouvement terroriste, mais déclaration de guerre, on comprend mieux ce que c'est malheureusement en France et ailleurs, hein, on pense à 14, 18, 39, 45, et avec les drames, les nombres de morts qui se sont accumulés ici ou là, sans distinction, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, etc., ça fait penser aux actes du nazisme pendant les deux grandes guerres en France et ailleurs. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui préoccupe le monde politique, en se disant on doit être solidaire en France, c'est-à-dire que tous les partis politiques, quels qu'ils soient, il y a un appel à une entente plus que cordiale entre les mouvements politiques, entre la droite, la gauche et ailleurs, sur cette question. Évidemment, il ne s'agit pas de faire de la récupération sur les problèmes franco-français. On n'en est pas là. Néanmoins, sur cette question israélienne, ce que demande la majorité, ce que demande le président de la République, la première ministre, les membres du gouvernement, c'est d'avoir le même langage et de faire preuve dans cette affaire, encore une fois, dans cette affaire uniquement pour l'instant, de faire preuve d'unité nationale et de parler d'une même voix, et non pas de créer des divisions qui sont déjà assez nombreuses comme ça sur le plan économique, social et ailleurs.
Mais le retour à la paix risque quand même d'être très long.
Plusieurs fois, on a entendu cette phrase de la part des membres du gouvernement. C'est que, de toute façon, le retour à la... Même si on met en route, et on voit bien que l'action diplomatique est en marche de la part des Français comme dans d'autres pays. L'action européenne est en marche. C'est la réflexion. Ça ne peut pas se régler du jour au lendemain. Mais ce que les uns et les autres veulent dire, c'est que d'abord, passer par la minuscule, l'entrebâillement, la minuscule porte ouverte de la diplomatie, cette démarche qu'il faut essayer d'obtenir et de mettre en route, la diplomatie envers qui ? Ben, les pays voisins, notamment... les pays qui sont proches de la Palestine, bien sûr,
le Liban,
la Syrie,
la Jordanie,
l'Égypte. Bon, il y a une action diplomatique vraiment sur la pointe des pieds qui démarre. Maintenant, est-ce que ça aboutira ou pas ? Le problème, c'est que pour Israël, ça ira jusqu'au bout. Ça, c'est clair, net et précis, quelles que soient les conséquences dans la bande de Gaza. Et c'est ça le problème. Alors maintenant, c'est un véritable parcours du combattant, de la part notamment des Européens, qui eux aussi doivent parler d'une même voix sur cette affaire. Pour l'instant, apparemment, c'est pas encore tout à fait cela.
Et il faut dire qu'il y a des otages français, otages d'autres pays aussi, et puis des morts aussi qui ont été une dizaine aujourd'hui français. Et peut-être que ça... on fait attention aussi à cette négociation sur les otages qui pourraient s'ouvrir.
On fait attention, je n'ose pas dire sans se faire trop d'illusions, quand on entend les uns et les autres, les combattants, entre guillemets, du Hamas, les combattants, entre guillemets, israéliens qui répliquent. Je crois qu'ils n'ont pas encore entré dans une réflexion de faire le tri entre ceci et cela. Quand on a vu les massacres des bébés, des vieillards, des mamans dans ces conditions-là, un retour en arrière immédiat face, retour à la paix, si j'ose dire, franchement, faut pas rêver. Malheureusement, ça va durer encore très 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 longtemps et les parlementaires français, le gouvernement, l'ont bien dit clairement, mais cela dit, faut pas baisser les bras. Encore une fois, face à cette affaire, surtout ne pas créer de problèmes supplémentaires sur le territoire français, ne pas créer de problèmes supplémentaires en Europe, mais faire preuve ensemble, quels que soient les courants politiques, de solidarité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur cette même question.
Bien évidemment, cette question a fait que toutes les autres questions qu'on pourrait imaginer, en particulier dans cette période de rentrée politique sur le plan social, avec l'inflation, avec les problèmes qui se posent ici ou là, dans le domaine de sécurité ou autre, bon, ça s'est passé à la trappe.
C'est pratiquement passé à la trappe, sauf une question aujourd'hui qui a été posée pour dire, attendez, bon, il y a tout ça, mais n'oubliez pas l'Arménie, c'était quand même il y a que quelques jours seulement, on n'en parle plus, et pourtant, il y a des centaines de milliers d'Arméniens qui sont réfugiés, qui ont été chassés du Haut-Karabakh, ne les laissez pas tomber, il faut vraiment ne pas les oublier, et agir pour qu'ils retrouvent en quelque sorte leurs droits, et qu'ils aient l'accueil de l'Europe aussi.
Des questions qu'on aura l'occasion de retrouver et d'évoquer avec vous dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Il faut dire, Fernand, que nous aurons l'occasion mercredi prochain. Mais d'ici là, s'il y avait des événements peu particuliers, je sais que vous êtes prêt à intervenir avec nous.
Je crois qu'à chaque jour, malheureusement, suffit, si j'ose dire, sa peine. C'est une peine avec un P majuscule. Et que dans les heures et les jours qui viennent, malheureusement, on aura l'occasion d'évoquer beaucoup, beaucoup de problèmes qui sont consécutifs à ce qui vient de se passer en Israël. C'est quand même terrible, parce que maintenant, non seulement il va falloir s'occuper de ce qui se passe là-bas, mais également surveiller ce qui risque de se passer ou de se réveiller, comme dans les années noires, sur le territoire français, voire ailleurs.
On aura l'occasion de suivre tout cela, Fernand, l'occasion pour nous de vous remercier. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien, dans le cadre de ce 18-19 régional, le mercredi prochain, le 18 octobre. On aura l'occasion, bien sûr, d'évoquer tout cela. Puis d'ici là, il y aura certainement encore des évolutions. Voilà, merci Fernand, voilà Alexis, ce qu'on pouvait dire. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite du magazine régional.
Le 18-19 sur RCF.
Merci Jean. Merci Jean-Pierre. 18h50, la suite de ce magazine régional. L'actualité en région cette semaine, c'est le Vitef du côté des Perlins qui bat son plein à l'occasion de l'inauguration hier midi. Sébastien Rigobert, directeur de G2V, a reçu le prix à l'innovation catégorie RSE avec son outil CertiJob. Nous l'avons rencontré. Sébastien Rigobert, bonjour.
Bonjour Alexis.
Félicitations pour ce prix, lauréat donc du prix à l'innovation catégorie RSE pour l'entreprise G2V avec sa marque CertiJob. Toutes nos félicitations Sébastien, forcément.
Merci, merci. Puis surtout, moi, c'est voilà une grande satisfaction aujourd'hui pour l'entreprise et pour les équipes hein, qui œuvrent sur cet outil CertiJob que l'on a créé dans le prolongement de notre activité de prestation de services vendanges, puisqu'on organise depuis 2015 les vendanges en Champagne avec des travailleurs venus de toute l'Europe. Et au travers de cette expérience de vendange, il nous est apparu important d'innover dans le cadre du RSE, dans le cadre du social et de la transparence sociale au travers de cet outil novateur qu'est CertiJob.
CertiJob, un outil novateur que l'on va présenter dans quelques instants, aussi bien comprendre ce qu'est G2V avec vous, Sébastien Rigobert, dont vous êtes le directeur. G2V, c'est une entreprise, c'est une start-up, comment on le définit ?
Alors c'est une entreprise, hein. Nous ne sommes pas une start-up, on est créé depuis 2015, on est présent en Champagne sur plusieurs activités, les activités environnementales puisqu'on accompagne aux certifications l'ensemble des acteurs de la filière sur les certifications en viticulture durable en Champagne ou bien HVE haute valeur environnementale, donc une équipe d'auditeurs, de techniciens sur le terrain qui accompagnent les exploitations viticoles tout au long de l'année. Donc c'est l'activité environnement et puis l'activité sociale, c'est la vendange principalement où depuis 2015 nous embauchons plusieurs milliers de travailleurs, 1200 cette année, principalement venant des pays de l'Est et qui travaillent pour les viticulteurs, pour la Champagne, au travers de notre entreprise.
Et avec cette entreprise, vous êtes en lien, comme vous l'avez dit, avec toute la Champagne, les vignerons, les viticulteurs et tous les acteurs, j'allais dire, de l'économie qui tourne autour de la vigne et du vin.
Oui, exactement. Et donc, nous sommes prestataires pour les grandes maisons, prestataires pour les viticulteurs sur l'opération de vendange.
Avec G2V, vous développez des outils, Sébastien Rigobert. Parmi ces outils, il y a CertiJob, pour lequel vous avez reçu ce mardi le prix à l'innovation catégorie RSE sur le forum Vitef ici à Épernay. C'est quoi CertiJob ?
Alors CertiJob est une plateforme numérique en ligne qui permet à un viticulteur ou une maison qui embauche des travailleurs de pouvoir échanger l'ensemble des documents pré-embauche qui permettront d'établir le contrat de travail, de pouvoir échanger avec le travailleur tout au long de la période de travail de la vendange avec par exemple la réalisation des appels en ligne, les échanges avec les vendangeurs et également de pouvoir transmettre directement sur l'interface sécurisée les éléments de paye des travailleurs saisonniers. Donc ça c'est lorsque l'on est employeur. Et puis il y a également toute la partie donneur d'ordre où lorsqu'une maison ou un viticulteur a un recours à un prestataire de service, il peut retrouver sur CertiJob l'ensemble de la traçabilité sociale de tous les travailleurs qui ont été mis en œuvre sur les chantiers. Et de l'autre côté, le travailleur, sur son espace smartphone, retrouve l'intégralité des éléments liés à son travail, son contrat de travail dans sa langue et tous les éléments importants comme l'hébergement, la restauration et toutes les conditions sociales de la mission pour laquelle il est engagé. Donc CertiJob, c'est de la transparence sociale et de la traçabilité sociale, ainsi que faciliter la vie des employeurs qui embauchent.
J'allais dire, Sébastien Rigobert, tout cela sans prendre de parti, parce qu'il est accessible à la fois, on l'a compris, aux employeurs, mais aussi aux salariés. Ça veut dire que l'intérêt est à minima double.
Exactement, c'est un outil qui s'adresse à tous ceux qui embauchent pour faciliter les démarches avec les travailleurs et également à tous ceux qui sous-traitent ou tous les donneurs d'ordre pour s'assurer d'une transparence sociale avec leurs sous-traitants.
Comment vous est venue cette idée de développer cet outil CertiJob ? C'était quoi l'idée au départ ? Est-ce que c'est ce que vous aviez imaginé ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait dans le temps au travers des différentes rencontres, des différentes expériences ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez posé sur la table directement ?
En fait, c'est le constat de l'évolution des travaux saisonniers dans l'agriculture en ensemble hein, sur le territoire français, où aujourd'hui de plus en plus de mal à trouver de la main-d'œuvre locale. Donc, on s'oriente vers des pays plus lointains, des pays d'Europe de l'Est, et donc les travailleurs sont de plus en plus loin. Et donc, pour communiquer avec eux, il faut des outils. Pour s'assurer que les filières de recrutement sont transparentes, il faut également des outils. Et donc, c'est dans le but de bonnes pratiques, d'une bonne communication et de s'adapter à ces nouvelles sources de recrutement dont notre filière a besoin.
Sébastien Rigobert, il y a un dicton qui dit que nul n'est prophète en son pays. Pourtant, lorsque l'on voit G2V qui est implanté ici en local à Reims, qui propose des outils comme CertiJob, finalement, vous, vos expériences, vous les avez d'abord faites ici, sur le territoire de la Champagne. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi de travailler en local avec des acteurs locaux.
Je crois que la Champagne est une bonne terre d'inspiration pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a une filière qui est extrêmement bien organisée et sur tous ces sujets environnementaux et sociaux, plutôt leader dans le domaine. Et donc, grâce au comité Champagne et au SGV, à l'Union des maisons de Champagne également, nous avons pu faire un bon travail et inspirer quelque part ces solutions qui, je l'espère, demain trouveront succès en dehors de notre région également.
Et pour trouver succès en dehors de votre région, vous doutez bien, Sébastien Rigobert, qu'on est obligé de vous poser la question, mais on imagine que G2V est aussi capable de s'exporter à travers la France, à travers l'Europe, à travers le monde, pourquoi pas ?
Alors, à travers la France, nous l'avons déjà fait au travers d'un outil CertiWeb sur l'environnement. Et donc, effectivement, aujourd'hui, l'entreprise est dimensionnée dans sa production et aussi dans son réseau de distribution pour pouvoir conquérir demain d'autres régions françaises. Et les premières études nous permettent aussi de penser qu'il y a un avenir à CertiJob au-delà des frontières de notre pays.
Aujourd'hui, lauréat du prix à l'innovation catégorie RSE avec cet outil CertiJob qui est déjà très complet, est-ce qu'il y a encore la possibilité de le faire évoluer cet outil ou est-ce que vous dites on a atteint quelque chose qui est à 100% de sa performance ?
Non, aujourd'hui, CertiJob, c'est le début d'une démarche. Hein. Tout comme on l'a vu sur la partie environnementale avec les progrès de nos filières chaque jour, aujourd'hui, nous sommes sur la partie sociale et CertiJob est le début d'une démarche. Hein. N'oublions pas que la RSE, c'est une démarche de progrès continu et continu veut dire chaque jour. Et donc, CertiJob et G2V continueront chaque jour à accompagner les filières dans leur transition environnementale et sociale.
Lorsque l'on parle de RSE, aujourd'hui, c'est une démarche essentielle pour les entreprises et vous n'êtes pas passé à côté avec G2V.
Non, exactement. C'est aujourd'hui notre thème principal, à la fois en interne pour l'entreprise, mais également dans l'offre de services et d'outils aux filières viticoles et agricoles pour la France.
Merci Sébastien Rigobert d'avoir été avec nous pour nous présenter cet outil CertiJob créé avec G2V dont vous êtes le directeur. Vous êtes basé à Besançon, on l'a dit, c'est des acteurs locaux qui travaillent pour une filière locale, pour la filière Champagne entre autres, mais pas que. Et vous avez été sur ce salon Vitef ce mardi, lauréat du prix à l'innovation catégorie RSE. Encore félicitations, puis bonne continuation car on l'a compris aussi, il y a encore des idées de développement derrière.
Merci Alexis, et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, sur LinkedIn et sur notre site internet g2vservices.fr.
Voilà, les rendez-vous sont donnés, c'est toujours des beaux lieux pour se retrouver. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit aussi en image l'activité de chacune des entreprises, de chacun de nos invités, et c'est toujours l'occasion d'aller découvrir des univers. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à découvrir le nôtre d'univers, celui de la radio, parfois à découvrir les coulisses en vous connectant sur les réseaux de RCF Cœur de Champagne, Facebook, Twitter, sur les réseaux de RCF Reims-Ardennes également, Facebook, Twitter, Instagram, c'est valable aussi pour nos confrères et collègues de RCF Cœur de Champagne. Voilà donc quelques rendez-vous que l'on pouvait vous donner. C'est ainsi que va se refermer ce magazine régional ce mercredi soir, 18h10-19h. C'est l'heure à laquelle on se retrouve demain, jeudi, pour un nouveau numéro. On sera notamment en compagnie de Gérard-Marie-Henri pour la question d'économie. On verra comment on peut mixer, comment certains fruits et légumes bio luttent contre le réchauffement climatique. La question est assez surprenante. Si vous voulez en savoir plus, il faudra être fidèle au poste demain, 18h10, pour découvrir tout cela. Évidemment, on aura aussi un maire qui nous parle et puis bien d'autres rencontres à vous faire découvrir sur notre territoire. Vendredi, on peut déjà annoncer quelques invités qui ont confirmé leur présence. Notre chroniqueur Jacques Cohen sera avec nous. On sera aussi avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui balayera l'actualité du monde, de l'international évidemment, mais aussi l'actualité dans le diocèse de Reims et des Ardennes. Voilà pour les rendez-vous du magazine régional. Puis dès 7h du matin, vous avez rendez-vous avec vos différentes rédactions locales pour l'information. À 19h12 ce soir sur RCF Reims-Ardennes, comme tous les soirs, c'est les méditations après l'information nationale que vous allez retrouver dans quelques instants. Le temps pour moi de dire au revoir à Mélissa qui nous a accompagnés tout au long de ce magazine ce mercredi. Bonne soirée Mélissa.
Bonne soirée.
Le temps aussi de remercier Fabrice Gironet, notre technicien qui était à la mise en onde de ce magazine régional. Nous on se retrouve demain jeudi 18h10 pour un nouveau numéro. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.